Maria Odbiné, bonjour, bienvenue sur Radio Maria.
Bonjour à tous.
Alors, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Je vais donc les citer: Tendresse, amour et volupté, un mois pour renouveler votre intimité conjugale, ouvrage qui vient de paraître récemment. Vous avez également écrit Infidélité et crise conjugale, comprendre et sortir de la crise. Et avec le père Michel Martin-Prével, que nos auditeurs connaissent bien, vous avez également coécrit un ouvrage, Grandir en couple, semer, cultiver et récolter. Est-ce que, avant de parler de notre sujet d'aujourd'hui, vous pourriez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs?
Oui, alors je suis conseillère conjugale et familiale et sexologue et j'accompagne depuis 13 ans les personnes en individuel ou en couple dans mon cabinet. Je les accueille, quels que soient leurs âges ou la durée de leur vie conjugale. Certains même sont célibataires pour voilà, offrir un espace et un temps de parole sur ce qui les fait souffrir à un moment donné dans le contexte dans lequel ils vivent. J'ai rencontré plus de 1000 couples hein, maintenant. Donc je commence à avoir un petit peu d'expérience par rapport aux différentes situations que peuvent rencontrer les couples aujourd'hui, qu'ils aient 20 ans ou qu'ils en aient 70.
Alors justement, vous allez plus particulièrement nous parler du couple, le couple qui est à la base de la cellule familiale.
Merci. Alors, nous sommes dans un contexte un peu particulier en ce mois de septembre, puisque les couples et les familles viennent de vivre un début d'année au printemps et un été un peu nouveau, avec un confinement, un déconfinement, un contexte qui peut paraître anxieux, avec des incertitudes, et en même temps une occasion de réellement se retrouver. Les couples, les personnes individuellement ou les familles ont été mises à l'épreuve par ce confinement et le déconfinement. La vie commune a permis de très belles réconciliations. Je peux parler de deux couples qui, juste avant le confinement, ont décidé, alors qu'ils étaient séparés, de passer le confinement ensemble et qui en ont profité vraiment pour faire un chemin conjugal qui a vraiment apporté ses fruits. Et aussi, pour certains, ça a été la prise de conscience de difficultés personnelles ou relationnelles au sein du couple et de la famille. Et souvent, les difficultés ont été confirmées durant l'été, puisqu'il y a eu à nouveau des temps ensemble. Alors, ce n'est pas si simple de faire une démarche en cabinet. On pourrait dire, a-t-on plus de problèmes aujourd'hui qu'avant, qu'au début du XXe siècle ou à d'autres époques? Pas forcément. Par contre, aujourd'hui, on n'accepte plus de rester dans ces difficultés. On a envie d'en parler, je dirais, on a envie de poser des mots pour soulager les mots MAUX et dépasser ce qui est coincant dans la relation conjugale ou familiale. Ben, tout simplement de manière à vivre un peu plus heureux, s'épanouir en tant qu'homme et en tant que femme, et permettre aussi aux enfants de grandir dans un meilleur équilibre, dans une plus grande harmonie. La démarche est difficile à faire, d'autant plus qu'aujourd'hui, le couple s'invente. Il n'y a plus de modèle. On n'est plus dans une transmission par tradition ou par éducation, ou même au niveau culturel. Et du coup, pour les conjoints, c'est un sacré défi à relever. Créer et faire durer la relation. Une relation unique à leur image, où chacun peut exprimer et épanouir en toute liberté sa personnalité, ses désirs, ses envies, ses projets. Régulièrement, j'ai des couples qui viennent, ils ont peut-être 10 ans, 15 ans de vie commune, et ils sont déçus. Ils disent, on n'y arrive pas, que se passe-t-il? Finalement, en creusant leur histoire personnelle, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont cherché de manière souvent inconsciente, à recréer ce qu'ils avaient pu vivre chez eux ou au contraire à l'éviter à tout prix. Je prends l'exemple de Denis et Corinne qui ont tous les deux eu des parents divorcés. Ils arrivent dans mon cabinet, ils ont vécu les 5 premières années de leur vie conjugale très heureux, les enfants sont arrivés de coup sur coup et là, tout a basculé, ils ont fini par s'éloigner l'un de l'autre en consacrant toute leur énergie sur les enfants. En fait, ils étaient d'accord sur un projet essentiel pour eux, réussir leur vie de famille. Et à force de se consacrer sur les enfants, ils ont oublié leur vie de couple. Et tout ça pour ne pas faire vivre à leurs enfants ce qu'eux avaient eux-mêmes vécu par le divorce de leurs parents. Seulement, ils ont pris le problème à l'envers. Et finalement, ils ont répété malgré eux ce qu'avaient vécu leurs parents. Ils étaient sur le point de se séparer. Donc, en revenant à leur vie conjugale, en réalimentant leur intimité, ils ont pu retrouver la dynamique qui leur tenait tant à cœur au début de leur vie. Alors, J'ai vu de l'évolution depuis 13 ans. Quand j'ai commencé, très peu de très jeunes venaient en consultation et il n'y avait pas de personnes au-delà de 55 ans. Eh bien aujourd'hui, ce sont tous les âges qui viennent et qui demandent des consultations. Je peux recevoir des jeunes de 20-25 ans qui ont des difficultés dans leur sexualité, cela peut paraître surprenant, mais maintenant ça arrive très jeune, ou qui ont des difficultés dans leur relation conjugale, ils se sont installés très tôt ensemble, et finalement s'épuisent, peinent à démarrer complètement leur vie adulte, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de faire une transition entre l'adolescence et la vie adulte. Et puis il y a des couples qui viennent, ils ont 60, 68 ans, 70 ans, voire 80 ans, et bien, c'est la retraite qui se passe mal. Elle a été mal préparée, ou finalement, c'est aussi une vie de couple qui n'a pas eu le temps de complètement s'épanouir quand il y avait les enfants et la vie professionnelle, et du coup, ils s'essoufflent. Je prends une autre situation. Il y a Anna qui, en fait, a arrêté de travailler avant son conjoint. Elle se retrouve à la retraite donc avant, et elle s'aperçoit qu'il n'arrive plus à se parler. Alors je suis surprise, je lui demande, mais avant ça n'existait pas. Elle me dit, mais en fait on travaillait tellement tous les deux qu'on ne s'en apercevait pas. Et à ce moment-là de la retraite, elle met des alertes. Elle dit, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Son conjoint qui continue de travailler, il a encore 2 ans avant la retraite, ne voit pas le problème. Les décalages en fait augmentent et la souffrance vraiment s'installe jusqu'à aussi les éloigner dans leur intimité. La tendresse finit par s'arrêter et elle finit par perdre pied. Que vais-je devenir ? Je n'ai pas envie de vieillir seule, je veux continuer de vieillir avec lui. Finalement, c'est toute la base de leur vie conjugale qui est reposée. Ils ont un virage à prendre, et ce n'est pas facile de le prendre à plus de 60 ans. Et pourtant, tous les deux, ils vont faire les efforts nécessaires, ils vont se remettre en question. Et se remettre en question est une des clés de la thérapie en couple, c'est d'accepter de se regarder en face, de regarder l'autre tel qu'il est et de se dire aujourd'hui, que voulons-nous ? Vers où allons-nous ? Comment conjuguer nos désirs ? Comment conjuguer nos projets ? Et en même temps, comment aussi nous respecter dans nos différences ? Comment permettre à chacun d'être à sa place en tant qu'homme et en tant que femme, de pouvoir faire émerger sa personnalité sans peur du jugement de l'autre ? Comment pouvoir exprimer ses besoins sans avoir peur de choquer l'autre, et puis comment aussi exprimer son libre arbitre dans des choix qui peuvent être très personnels, tout en tenant compte de l'impact sur la vie conjugale. Et à la retraite, c'est un sacré défi, puisqu'on se retrouve beaucoup plus ensemble. Il n'y a plus les enfants pour faire tiers ou quelquefois écran. Il faut repenser cette vie à deux et l'entrevoir dans le vieillissement, ce qui est aussi un paramètre qui change beaucoup. Alors il y a des crises dans la vie conjugale, et autrefois, ces crises, elles existaient. On peut écouter les récits des grands-mères qui peuvent raconter leur vie conjugale, où il y a eu de la violence, où il y a pu avoir des infidélités, où il y a pu avoir des moments de mésentente, parfois de désamour, mais ces moments-là ne se parlaient pas à l'extérieur. Ça se parlait juste en intrafamilial, à la rigueur avec une ou deux bonnes amies, et on n'allait pas plus loin. Aujourd'hui, on a envie, comme je disais tout à l'heure, de dépasser ces difficultés. Et puis les crises, il y en a un peu plus parce que on vit plus ensemble. Je parlais du défi du couple de durer. Autrefois, les couples vivaient maximum 20 ans ensemble. Souvent, l'un des deux était mort avant. Et du coup, il n'y avait pas la crise des 20 ans que l'on connaît aujourd'hui ou la crise des 30 ans que les couples peuvent aussi rencontrer. Il n'y avait pas cette fameuse crise de la quarantaine ou de la cinquantaine ou de la soixantaine. Et du coup, il y a vraiment un repositionnement, il y a une déstabilisation tellement forte avec moins de repères que cela peut prendre du temps de se dire voilà, que faire pour aller mieux. Ces crises conjugales, aujourd'hui il y a des couples qui les vivent même au bout de 2 ans de vie commune parce qu'ils n'ont pas pris le temps de vivre seuls avant. Ils n'ont pas pris le temps d'expérimenter qui ils étaient, de vraiment confirmer leur identité, de pouvoir vraiment poser un choix après avoir fait un discernement. Alors je ne peux qu'encourager tout ce qui est préventif, et j'ai beaucoup de collègues qui en font aussi, sur auprès des jeunes, comment accompagner les jeunes vers cette vie adulte, où peut-être leur mission, leur vocation sera d'être en couple. mais aussi peut-être que leur mission, leur vocation, ça, d'être célibataire, religieux, prêtre. Et il s'agit aussi d'amour et il s'agit aussi de relationnel. Ce relationnel, il est d'abord vis-à-vis de soi-même. Pendant longtemps, on a dit que s'occuper de soi, c'était égoïste, voire égocentrique. Et en fait, c'est la phrase de l'Évangile, aime ton prochain comme toi-même, connais-toi toi-même. Et c'est ce qui va permettre au couple de gagner en équilibre, c'est que chacun des conjoints saura, avec beaucoup d'humilité, d'honnêteté, d'authenticité, de vérité, reconnaître sa fragilité, et non pas s'enfermer dans des faiblesses. Nous avons tous des failles. Et en même temps, reconnaître aussi ses compétences, ses qualités qu'il peut mettre au service du couple. Un couple, et c'est toute la vocation du mariage, c'est un chemin de sainteté. C'est pas devenir parfait. C'est se faire advenir l'un à l'autre, par l'autre. Et ça aussi, c'est encore un défi. Parce que l'autre nous dérange. Parce que l'autre vient nous chercher là où on n'a pas envie. Parce qu'il révèle nos côtés sombres. Et parfois, ça se révèle dans de la violence verbale, dans de la violence physique. Parfois, ça se révèle dans de la fuite, dans des silences. Un silence peut être tout aussi violent qu'un mot ou qu'une gifle. Et en même temps, l'autre nous révèle aussi nos potentialités. Et puis, tout cet amour qui est au creux de chaque cœur. Combien de couples découvrent le pardon ? Lorsqu'il y a des infidélités, les couples arrivent et le conjoint trompé me dit « je ne pourrai jamais pardonner ». Cette phrase, elle est lapidaire à un moment donné. L'autre ne peut plus s'en sortir. Et pourtant, quand on comprend que même celui qui a été infidèle peut aussi souffrir, on finit par avoir de la compassion l'un vis-à-vis de l'autre et on peut cheminer ensemble pour comprendre ce qui s'est passé pour l'un, pour l'autre et au sein du couple. Et le chemin du pardon peut commencer. Alors bien sûr, suivant l'histoire que l'on a personnelle, ce sera plus ou moins facile. Peut-on s'en sortir ? Je ne peux que vous dire oui, bien sûr qu'il y a de l'espérance. Après, d'un point de vue très réaliste, tous les couples ne s'en sortent pas et j'accompagne aussi des couples dans la séparation. Et quelque part, c'est nouveau aussi. Les couples aujourd'hui ne veulent plus se séparer n'importe comment. Ils ont conscience de la souffrance que cela occasionne à leurs enfants. Ils ont conscience aussi qu'eux-mêmes franchissent un pas, un cap qui va les mettre en difficulté et ils ont besoin d'être accompagnés dans cette étape. Tous ces nouveaux couples, quelle que soit leur durée de vie commune, lorsqu'ils font la démarche de venir dans un cabinet, malgré leurs hésitations, leurs doutes, leurs souffrances, décident à un moment donné avec beaucoup d'humilité, de remettre un peu leur vie de couple à plat. Quand ils le font à deux, c'est une chance qui est vraiment donnée au couple. S'impliquer à deux, mettre la volonté à deux, est bien plus une chance pour le couple que de compter juste sur le sentiment. Car parfois, il y a du désamour. Il y en a un des deux qui dit « je ne sais plus si je t'aime » ou « je ne t'aime plus ». Faut-il se séparer ? La question est toujours bonne à poser. En tout cas, ça permet de poser la souffrance, de dépasser les rancœurs, de parler de toutes les infidélités. L'infidélité sexuelle n'est pas la seule qui existe. Et puis, peut-être aussi pour les couples chrétiens, de se remettre ensemble face à Dieu, de revenir au sacrement. Et j'encourage toujours à avoir un accompagnateur spirituel, de manière à ce que la personne soit accompagnée dans toutes ses dimensions. Je vous renvoie à tout ce à quoi nous appelle le pape François. Et comme il l'a dit dernièrement, même au cœur de l'intimité, il est important que le couple trouve son épanouissement. Alors, on peut redonner de la dynamique au couple en refaisant des projets. Dès qu'un couple ne fait plus de projets, eh bien, il est en perte de vitesse. En remettant de la tendresse en priorité au quotidien. Dès qu'il n'y a plus de tendresse, le couple est en train de mourir. En retrouvant des plaisirs partagés, un tout petit plaisir, cuisiner ensemble, aller se promener dans son jardin, peut-être regarder un bon film, tous les petits plaisirs certainement qui ont déjà été partagés dès le début de la vie conjugale, on peut s'en souvenir et s'en resservir. Et puis réintroduire de la gratitude, de la valorisation, des compliments. Finalement, quel regard je pose sur mon conjoint aujourd'hui ? Quel regard j'accepte que mon conjoint pose sur moi ? Et puis, quel regard ai-je sur moi-même quand je me regarde dans la glace? C'est aussi, du coup, rouvrir l'intimité, du cœur à cœur. La communication, dans ces moments difficiles, est souvent en berne. Il y a une peur de parler à l'autre, il y a quelquefois même une fuite, je n'ai pas envie de l'entendre, ou il y a une telle peur du conflit qu'il y a « je préfère me taire ». Sinon, on ne sait jamais comment il ou elle va réagir. Je prends à nouveau une situation qui peut-être va vous parler, chers auditeurs, c'est Pascal qui vient me voir et qui me dit « je n'y arrive plus, ma femme est tout le temps en train de se plaindre, je n'arrive plus à la satisfaire ». Cette satisfaction, elle était sur la vie quotidienne, il n'y avait rien qui touchait à la sexualité, et Pascal se sentait complètement impuissant, démuni. Et en parlant avec lui, je lui dis « que se passe-t-il ? » Il me dit « mais je fais tout pour elle, je lui rends service, elle veut quelque chose, je suis là. » Et je lui dis « ce que vous venez de me dire, votre impuissance, votre sentiment voilà, de ne plus y arriver du tout et de ne plus être assez important pour elle. Est-ce que vous lui en avez parlé ?» Et là, il me dit « non ». Et je lui dis « mais qu'est-ce qui fait que vous ne parlez pas de ce que vous vivez ?» Il me dit « mais je ne sais pas le faire. » Et puis je ne suis pas sûre qu'elle le comprenne. Et vous voyez, le cœur à cœur dans ce couple avait une grande difficulté à s'instaurer. Sa femme est venue en consultation et du coup ils ont pu se dire, grâce à la médiation, ce qu'ils pouvaient vivre dans ces moments où ils se cherchaient mais ne se trouvaient pas. Et il a pu entendre qu'il donnait beaucoup de choses à sa femme, et c'était beau, et en même temps ça ne correspondait pas du tout à sa manière à elle de se sentir aimée. Donc elle a pu lui dire, lui verbaliser, voilà comment je me sens aimée, voilà quels sont mes besoins, en étant beaucoup plus précise. Et hein, on parle beaucoup de la différence homme-femme, les femmes ont souvent tendance à attendre que les hommes devinent. Ce n'est pas possible, c'est important de pouvoir bien préciser sa demande, et ensuite chacun, librement, peut y répondre ou pas. Et il y a pu avoir une nouvelle harmonie qui s'est instaurée dans ce couple, chacun a pu se sentir vraiment écouté, sur ce qu'il habitait et sur les besoins fondamentaux qui lui permettaient de se sentir à sa place dans le couple. Bien sûr, il y a l'intimité du corps à corps. Alors, c'est pareil, la sexualité, autrefois, on en parlait très peu. Combien de viols conjugales, combien d'incestes, combien d'infidélités sexuelles existaient, ne se parlaient pas. Et malheureusement, se sont transmises hein, dans des fragilités transgénérationnelles. Aujourd'hui, on en parle. Et ce n'est pas juste pour le plaisir d'en parler, parce que ce n'est vraiment pas un plaisir. Il y a de telles souffrances derrière. Et en même temps, il n'y a pas que ces situations graves. Il peut y avoir d'autres difficultés, puisque maintenant, on connaît bien le fonctionnement de l'homme et de la femme, physiologiquement, biologiquement. On connaît bien les interactions, comment se passent les interactions au niveau du corps entre l'homme et la femme. Et le fait de pouvoir en parler permet d'aplanir un petit peu les tensions et de se dire revenons simplement à comment nous fonctionnons chacun pour mieux se comprendre et pour mieux se respecter. Il y a énormément de différences dans le fonctionnement sexuel de l'homme et de la femme. Les informations ne sont pas toujours bonnes sur Internet ou dans les médias et il est bon voilà, de refaire le point ensemble. Pendant le confinement, une jeune femme de 35 ans m'a appelée en me disant je m'aperçois que vraiment j'ai un trouble du désir très fort et je n'ai jamais goûté le plaisir. Jusqu'à maintenant, c'était pas très grave, mais je vois que ça commence à atteindre notre couple. Mon mari en est triste et finalement, moi, ça me manque. Et elle a décidé pendant le confinement de commencer un cheminement et ensuite, au moment du déconfinement, je les ai vus en couple. Ils ont fait un chemin grâce à leur complicité. Eux avaient un bon dialogue conjugal, mais la sexualité était taboue, il y avait une forme de pudeur. Lui n'osait pas proposer, il n'osait pas simuler sa femme, et elle n'osait pas non plus dire quels étaient ses réels désirs. La parole s'est libérée, et les corps ont commencé à se délier, et à pouvoir se rencontrer. Et c'est un couple hein, qui a pu faire ce travail pour mieux s'épanouir, mieux se connaître. Alors oui, il faut oser. Ça peut paraître difficile à certains moments. Et en même temps, c'est source réellement de joie. La sexualité, elle est là pour apporter de la joie, comme tous les autres plaisirs de la vie. Maintenant, parler du couple, vous voyez bien que c'est difficile d'en parler d'une manière générale, puisque chaque situation est unique, que les causes de difficultés sont plurielles, et aussi que les joies sont plurielles. Chaque couple va créer sa propre vie conjugale, et quand je dis vie, c'est avec un grand V. C'est-à-dire qu'il est porteur d'un amour plus fort que lui, et il va le rayonner à sa manière. Et c'est ça qui est magnifique. Depuis que je travaille, je n'ai jamais rencontré un seul couple pareil. Même si des situations peuvent se ressembler, l'accompagnement diffère à chaque fois, parce que les histoires sont différentes. Toutes ces petites histoires alignées font la grande histoire du couple, la grande histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, les couples ont besoin de soins, ont besoin d'attention. Et je ne peux qu'encourager les couples à chercher autour d'eux des ressources. Les ressources spirituelles et aussi, surtout, les ressources amicales. Les ressources où l'amitié va venir aussi soutenir leur amour. On parle de l'importance des témoins lors du mariage. Mais au fur et à mesure de la vie conjugale, quelquefois les liens ne restent pas avec les témoins, on peut avoir d'autres très bons amis. En confiance, comment je peux trouver de l'aide? De l'aide pour aller mieux, pour retrouver le sourire, pour voir la vie un peu plus positivement. Alors la place des amis est importante, la place des familles aussi. Mais dans les deux cas, prudence. Les amis ou les familles ont souvent de très bonnes intentions, pas forcément les bons mots ou les bonnes attitudes. C'est important de vraiment discerner à qui on peut se confier, qui peut vraiment être une ressource positive pour le couple, et pas un encouragement à la séparation ou à voir l'autre, en effet, comme le bourreau par excellence. Et notamment dans le cadre des infidélités. Les situations d'infidélité sont très complexes, et notamment aujourd'hui avec les écrans, qui sont venus apporter des sources supplémentaires d'infidélité. L'infidélité peut se passer aussi à travers les enfants, une femme qui ne fait que s'occuper des enfants et qui ne s'occupe plus de son conjoint, est en quelque sorte infidèle puisqu'elle n'est plus dans cette exclusivité à donner son amour d'abord à son conjoint pour alimenter la relation conjugale. Et il aborde énormément de situations. Faire la démarche d'un accompagnement, qu'il soit spirituel ou en thérapie, parfois peut être difficile. Des couples viennent au bout de 10 ans. Et parfois, malheureusement, c'est trop tard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tenir aussi longtemps, ça épuise. Il y a un épuisement psychologique, un épuisement affectif et un épuisement physique. Je ne peux qu'encourager à faire les démarches dès que l'on sent qu'il y a un mal-être, pas au moindre conflit bien sûr, ou à la moindre dispute, mais dès qu'un mal-être s'installe, qu'on sent qu'entre ce que l'on ressent intérieurement et ce que l'on voudrait, il y a un trop grand décalage. Quand on sent qu'il y a moins de tendresse, quand on sent que l'autre s'éloigne, qu'on sent qu'on n'arrive plus à se parler, à être entendu, qu'on sent que le ton monte trop facilement. Et puis parfois, ça peut être les difficultés avec les enfants. La vie de famille, ça aussi c'est un défi aujourd'hui. L'éducation n'est plus une évidence, on n'a plus de transmission du tout là-dessus. C'est pour ça qu'il y a autant d'écoles de parents, autant de groupes qui se sont montés pour aider les parents dans l'éducation de leurs enfants. Les enfants déstabilisent, parfois dès la grossesse, parce que la grossesse est difficile, parfois dès la naissance, parfois... il faut attendre l'adolescence, ou même le début de la vie adulte. Robert est venu me voir et il a un de ses fils qui se drogue. Il est malheureux, son fils a 22 ans. Il est extrêmement malheureux, il ne sait pas quoi faire, il se sent démuni. Et en fait, Robert est divorcé, et son ex-femme habite la même ville que son fils, et elle a fini par avoir peur de son fils parce qu'il y avait de la violence. Et il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas laisser mon ex-femme comme ça, je ne peux pas laisser mon fils comme ça. Et en même temps, ils sont tous les deux adultes. Voilà, que faire? Donc, cette vie de famille, quelle que soit sa forme, elle peut, même dans le temps, venir questionner. Et elle peut solliciter un accompagnement. Voilà, je vous ai donné de manière assez généraliste quelques situations, en tout cas ce que nous rencontrons aujourd'hui dans nos cabinets de thérapeutes. Comme je vous disais, j'encourage beaucoup l'accompagnement spirituel. Je suis en relation avec des prêtres ou des religieux et qui eux-mêmes font ce travail d'accompagnement et qui eux-mêmes peuvent encourager les personnes qu'ils accompagnent à aller voir des thérapeutes. C'est cette intelligence commune aussi qui permet d'accompagner la personne dans toutes ses dimensions et lui permettre d'être vraiment au cœur de ce pourquoi elle a été créée, qu'elle soit homme, qu'elle soit femme, et qu'elle soit enfant aussi au sein d'une famille.
Mariotte Binet, par rapport à ce que vous avez dit en première partie d'émission, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est communication. Que ce soit, par exemple, vous avez parlé de l'importance d'avoir des projets communs, ça sous-entend qu'il faut en parler dans le couple. Des moments partagés, c'est une forme de communication également. C'est ça le problème majeur des couples que vous rencontrez, c'est ce problème de communication.
Alors, la communication, elle est souvent très bonne au début de la relation parce qu'on est tout feu, tout flamme et on a plein de choses à se raconter. Et cette communication peut en effet devenir difficile, surtout avec l'arrivée des enfants, où les enfants vont prendre plus de place. Et puis souvent, lorsque l'on se rencontre entre 25 et 30 ans, on est aussi non seulement dans la création d'une famille, mais aussi dans l'évolution d'une carrière professionnelle. Donc, le travail et les enfants vont devenir des priorités. Et le couple va vraiment passer en troisième, voire quatrième ou cinquième position, parce qu'en plus, il faut aller voir la famille, il faut voir les amis le week-end. Du coup, il n'y a plus de temps ni d'espace pour le couple. Donc, pour pouvoir communiquer, c'est d'abord important que les conjoints prennent du temps et mettent un espace dédié à cette communication. J'encourage les couples à se fixer au moins une fois par semaine. Certains ne peuvent qu'une fois par mois à cause des déplacements ou d'autres contraintes. En tout cas, d'avoir un temps où il y a au moins 2-3 heures où on se retrouve ensemble. Ça peut être à la maison, ça peut être à l'extérieur. Sur ce temps-là, il y a au moins une demi-heure pour se parler dans un cœur à cœur. Voilà, faire le point. Comment j'ai vécu cette semaine? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Dire à l'autre peut-être quelque chose qui a déplu, mais aussi le remercier de quelque chose qui a été donné. En tout cas, prendre soin de la relation de cette manière-là. Et ça va être l'occasion, comme vous le dites, d'exposer un projet. Tiens, j'aimerais bien qu'on parte en voyage l'été prochain. On m'a proposé au travail, peut-être d'ici 2 ans, une expatriation. Est-ce que tu serais prêt? Enfin, voilà. De pouvoir partager sur ce qui va être personnel, ce qui va y avoir comme impact sur le couple, mais aussi sur des projets communs. Et c'est vrai que on ne peut pas le faire juste entre deux portes ou le soir en rentrant, pendant que les enfants sont autour en train de crier. Il y a besoin de se poser. Alors, comme je disais, ça peut être à la maison. À ce moment-là, on fait manger les enfants avant. Beaucoup de couples me disent, mais en fait, on ne mange jamais sans les enfants. Avec les enfants à table, c'est difficile d'avoir des conversations approfondies et les enfants n'ont pas tout à entendre non plus de la vie des adultes. Donc, prendre ces temps-là, ça peut être aussi des temps calmes que les enfants font après les repas le samedi ou dimanche et le couple se retrouve à ce moment-là. Il y a toujours moyen d'aller chez le médecin, toujours le moyen de voir les amis, de voir la famille. Il y a donc le moyen de retrouver son conjoint à qui normalement on a dit « c'est toi le premier ou la première dans ma vie ». Et pourtant, ce n'est pas souvent le cas. Donc, remettre l'autre en priorité. Et puis, la communication sera bonne aussi parce que chacun va avoir un espace pour lui-même. Si je n'ai pas d'espace pour moi-même, qu'est-ce que je vais avoir à raconter à l'autre? Si je ne prends pas le temps d'être face à moi-même, le pape François encourage chacun à se retrouver au moins 5 minutes en silence tout seul par jour pour voilà, se dire « j'en suis où? Qu'est-ce que je veux ?» Et puis laisser aussi voilà, ce silence être nourrissant par rapport à la foi que l'on peut avoir. L'Esprit Saint vient à ce moment-là aussi parler. Donc, je vais pouvoir partager à l'autre quelque chose qui me nourrit et je vais enrichir la relation aussi avec ça. Donc, avoir des activités propres et aussi avoir des activités communes.
Alors, nous avons reçu deux messages. Tout d'abord, Marie-Lourde qui écrit « Bonjour, je remercie l'intervenante pour tous les conseils qu'elle a donnés pour les couples et surtout le couple sous le regard de Dieu. Merci, Marie-Lourde. » Alors, je vais rebondir sur le message de Marie-Lourde. Nous avons des émissions avec le père Michel Martin-Prével qui insiste justement sur, et là, ça rejoint ce que vous avez dit sur le couple qui est relégué à la troisième ou quatrième place. Il insiste sur le fait que le sacrement de mariage, donc c'est le couple qui bénéficie d'un sacrement, et que la famille est issue du couple. Et une fois que les enfants sont partis, il n'y a plus la famille, mais il reste le couple. Et qu'il insiste bien là-dessus, justement sur le fait que c'est le couple qui bénéficie d'un sacrement avec le sacrement de mariage, et qu'il n'y a pas de sacrement de la famille en tant que tel.
Oui, et c'est pour ça que je disais qu'il y avait de plus en plus de couples de plus de 60 ans qui sollicitent des accompagnements, parce qu'ils ont tellement donné à leurs enfants qu'ils n'ont pas construit totalement, ils ont construit des choses, hein, mais ils n'ont pas concentré leur implication sur le couple. Et finalement, ils finissent par être deux étrangers. Donc quand les enfants partent, au-delà du phénomène de nid vide, il y a, mais finalement, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Je ne te reconnais plus, je n'ai pas envie d'être avec toi, ou je n'ai plus envie de vivre certaines choses avec toi. Et c'est vrai que prévenir ce passage de la retraite, c'est justement entretenir son couple dès le début. Alors bien sûr, il y a des périodes plus ou moins faciles. Il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des deuils, il peut y avoir des conflits. Bon, voilà. Mais en tout cas, toujours avoir en tête que, en effet, on est là pour accompagner les enfants, les faire grandir, mais on est là aussi pour les faire, à un moment donné, partir, c'est-à-dire qu'on les éduque pour qu'ils partent, qu'ils aillent faire leur vie. Et que la première mission que l'on a, le premier enfant du couple, c'est sa relation. Et comment je nourris cet enfant régulièrement, et ce sera jusqu'à la fin.
Alors, l'autre question que nous avons reçue par SMS, c'est une auditrice qui n'a pas souhaité donner son prénom. « Bonjour, en ce moment, ce qui me gêne, c'est que je suis en pleine ménopause, donc je ne suis plus aussi intéressée par les relations sexuelles et mon conjoint a du mal à appréhender cela. Que faire dans ce cas? Merci de m'éclairer à ce sujet. »
Alors, il y a deux choses. Quand on est en périménopause ou ménopause, il y a une chute hormonale des œstrogènes. Et on sait que les œstrogènes, pendant les cycles, lorsqu'ils sont très élevés, en effet, donnent un pic de désir aux femmes. Mais, et ça je vais démonter une croyance, ça n'est pas ça qui donne du désir. Le désir, il est bien sûr en partie hormonal, mais pas que. Le désir, il vient du manque, il vient de l'envie d'être avec l'autre. Donc le désir avant d'être sexualisé, il est d'abord le désir d'être avec l'autre. Donc est-ce que cette dame a le désir d'être chez elle, avec son conjoint, d'être dans ses bras, d'avoir de la tendresse? S'il y a ce désir-là, le désir existe. Maintenant, c'est comment le resexualiser. Le désir sexuel s'entretient. Si on n'y va plus, on le goûte encore moins. Donc il faut le stimuler. Et quelquefois, le désir vient pendant la relation sexuelle. C'est-à-dire qu'on peut commencer sans être totalement prêt, et c'est là qu'il y a tout un dialogue conjugal important, parce que, en effet, lorsqu'il y a ce passage qui est très inconfortable pour les femmes, pour les hommes, c'est un vrai mystère, et ils ont du mal à comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Mais c'est à elle de communiquer à son conjoint, voilà ce que je ressens, là j'ai une bouffée de chaleur, là. Attends, on va attendre un petit peu, hein, dans une ou deux heures, ou je suis fatiguée, j'ai eu une insomnie la nuit dernière, mais c'est pas pour autant que je ne veux pas être avec toi. Parce que pendant ce temps-là, l'homme, il sent du désamour. Il a l'impression qu'on ne veut plus de lui. Et ça blesse, en fait. Donc, lorsqu'il y a ces incompréhensions, c'est important de vraiment beaucoup parler, chacun exprimer où il en est, et revenir peut-être dans un corps à corps qui passe par la sensualité. C'est ce que j'explique dans mon livre, hein, « Tendresse, amour et volupté ». Et de se dire, comment peut-être notre sexualité, elle peut s'aménager pendant un temps. Peut-être qu'on peut découvrir autrement notre langage des corps. Et la ménopause n'empêche absolument pas ça. Et il y a même beaucoup de femmes qui, la ménopause, une fois là, ont encore plus de plaisir et encore plus d'envie sexuelle parce qu'elles sont libérées de, entre guillemets, la contrainte des règles ou de la crainte d'avoir une grossesse. Donc la sexualité, qu'on soit un homme ou une femme, elle peut être épanouissante jusqu'à 80 ans. mais ça s'entretient. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des passages un peu délicats, et là, ça nécessite voilà, d'être dans ce dialogue, ce respect conjugal, et peut-être de trouver une autre forme de complicité aussi dans le corps à corps.
Alors, pour en revenir à la communication de manière générale, un couple, c'est au départ deux individus différents qui n'ont pas forcément la même manière de réagir et de fonctionner. Et j'ai entendu parler des langages de l'amour. Est-ce que justement, est-ce que vous invitez peut-être les couples à discuter de ce à quoi ils sont sensibles. Je pense par exemple aux moments partagés, d'autres qui seront plus sensibles au service rendu.
Oui,
qu'est-ce que vous en
alors,
pensez?
c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure quand je disais que voilà, un des couples, je crois que c'est Pascal qui se sentait vraiment démuni parce qu'il avait l'impression de tout faire pour sa femme et que ça marchait jamais. Et quand elle a exprimé ses besoins, quand elle a expliqué comment elle se sentait aimée, il a pu du coup un peu mieux s'adapter. En fait, en couple, on passe son temps à s'apprivoiser. Parce qu'en effet, c'est pas une évidence. Déjà, on est deux personnes totalement différentes dans notre unicité, et en plus, un homme, une femme, ça fonctionne pas pareil. Donc, il faut du temps, et puis ça, je dirais, on remet toujours un peu l'ouvrage sur le métier, et puis on essaye, on réessaye. Alors, les langages de l'amour, hein, c'est Gary Chapman, un conseiller conjugal américain qui a écrit là-dessus, et il y en a cinq. On vous encourage à acheter le livre, et en plus il existe aussi pour les enfants, pour de manière à bien connaître le langage d'amour de nos enfants. Donc il y a les paroles valorisantes, le toucher, qui passe souvent beaucoup par la sexualité, le service rendu, les cadeaux et les moments de qualité. Alors souvent, on parle à l'autre son propre langage. Je vais offrir des cadeaux à mon conjoint parce qu'en fait, j'aimerais bien qu'on m'en offre. Alors ça marche pas pour le conjoint, ça peut paraître, zut, ça marche pas et c'est décevant, frustrant. Donc c'est important, oui, de se dire finalement, voilà comment moi je me sens aimée. Si on prend une heure par semaine pour parler, ah, je suis remplie, ma semaine, elle se passera très bien. Donc voilà, se dire simplement, c'est ce fonctionnement-là. Mais au-delà de ça, vous le dites très bien, hommes et femmes sont différents. Et ça demande du temps de se connaître, de s'apprivoiser. Et encore une fois, on ne peut pas deviner comment l'autre fonctionne. C'est comme si vous partiez à l'étranger, vous allez en Angleterre et ben, vous n'allez pas parler anglais de manière automatique, comprendre ce qu'on vous dit en anglais. Ça vous demande, vous, d'apprendre la langue. Mais en fait, quand on se met en couple, il faut apprendre la langue de l'autre, avoir le bon vocabulaire. Et puis, il y a toute l'influence de l'histoire de chacun. L'histoire familiale, l'histoire de l'éducation, les expériences, les blessures, les réussites. Et ben voilà, ça demande aussi quelque part de se raconter sa vie. Et en fait, je suis souvent surprise de voir que des conjoints ne se sont pas raconté leur vie. Donc finalement, ben, ils ne savent pas pourquoi l'autre réagit de telle ou telle manière. Et ben, du coup, il y a des réactions qui sont assez inadaptées, voire blessantes.
Alors, une dernière question pour terminer cette émission. Une auditrice également qui a souhaité rester anonyme. Bonjour, merci pour cette émission. La communication, j'aime bien, mais pas mon mari. C'est toujours moi qui prends des initiatives. Quand je lui dis quelque chose, lui, il n'a jamais rien à dire. Que faire? Voilà. Et donc, cette auditrice remercie pour votre réponse.
Alors, en fait, cette situation est assez souvent présente dans mon cabinet. Il y a souvent dans les couples un bavard et un moins. D'abord, c'est de se dire quelles ont été les habitudes familiales. Est-ce que son mari est d'une famille où on ne parle pas ou est-ce qu'on parle? S'il est d'une famille où on ne parle pas, on ne se dit rien, il n'a pas appris. Et du coup, c'est dans sa vie adulte et peut-être grâce à sa compagne qu'il va apprendre à parler. Mais quand on n'a pas appris à parler et qu'on est peut-être introverti, on peut avoir des peurs et puis on ne peut ne pas trouver les mots. Il y a des personnes comme ça qui disent « je ne sais pas ». C'est très horripilant d'avoir quelqu'un en face qui dit « mais qu'est-ce que t'en penses ? Je ne sais pas ». En fait, ce n'est pas que la personne ne sait pas. C'est qu'elle a besoin de temps pour élaborer autour de la question. Alors peut-être que son conjoint a besoin de temps pour trouver les mots, je dirais éclairer son idée et pouvoir du coup l'exposer. Soit passer par de l'écrit peut être intéressant, pour introduire la conversation, soit accorder les rythmes. Dans un couple, on peut avoir des rythmes totalement différents et ça peut avoir un impact dans la communication. Et puis, ben, peut-être qu'il y a besoin aussi d'un apprentissage de cette communication pour oser dire et savoir dire ce que l'on ressent. souvent les personnes sont capables d'identifier, voilà, je me sens fatiguée, mais ne savent pas le dire. Ou alors vont dire je suis fatiguée à tout bout de champ, et en fait c'est pas de la fatigue, à côté il y a un souci, il y a une inquiétude. Et puis il y a des personnes qui n'identifient pas leurs émotions ou leurs sentiments parce qu'elles ont eu des blessures dans leur vie et ont coupé un petit peu la communication entre le cerveau et le ressenti. Donc c'est suivant les situations, voilà, et c'est l'accompagnement est un peu différent. En tout cas, ce que votre auditrice vit, bien sûr, on peut le dépasser. Si elle n'y arrive pas seule, voilà, il peut y avoir une sollicitation d'un accompagnement pour fluidifier et simplifier cette parole. En tout cas, peut-être que ça vaut le coup qu'elle demande à son conjoint, et si je te laisse du temps, est-ce que ça t'aide ? Voilà, pour justement pouvoir répondre en étant vraiment le plus authentique et lié à ce qu'il ressent.
Alors merci beaucoup Marie-Aude Binet pour ce temps que vous nous avez accordé. Nous sommes au terme de notre émission.
Merci à vous, ça a été un grand plaisir.
Merci, à très bientôt.
Au revoir. Au revoir.